VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. En Centrafrique, l'annonce du retrait du contingent congolais de la MINUSCA est diversement appréciée. Parmi les réactions, celle de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Centrafrique. Pour l'ambassadeur Esdras Kambale Baïkwa, son pays prend acte de la décision de l'ONU tout en déplorant la manière avec laquelle la décision a été prise. On l'écoute.
Que ce soit les autres forces au sein de la MINUSCA, que ce soit au niveau de la population de la République centrafricaine, le contingent de la RDC est très apprécié. Je voudrais mettre à défi quiconque pourra me contredire. Mais ce contingent travaille sous l'ONU. C'est lui le mari. Quand il dit qu'il n'a plus besoin de sa femme ou d'un enfant, qu'est-ce que vous voulez que la RDC puisse faire? La RDC plie bagage et rentre au village. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut remercier un contingent qui a travaillé et qui a bien travaillé. On me parle de cas de violence sexuelle, abus sexuels. Ben, un contingent de 800 personnes. Pour 4 cas d'abus sexuels et qui ne sont pas avérés, que nous, la RDC, nous n'avons pas accepté. On remballe tout un contingent. Nous sommes tous des Africains. Nous comprenons. Il doit y avoir beaucoup d'en dessous des cartes.
L'ambassadeur de la RDC en Centrafrique, on reste en RDC, 7,5 millions de personnes, soit près de 9% de la population, sont frappées par une crise humanitaire aux proportions massives. Et selon l'ONU, l'ensemble du territoire congolais est dans le besoin d'une assistance estimée à 690 millions de dollars cette année. Eric Manirakiza.
Selon le plan de réponse humanitaire 2016 pour la RDC publié hier par l'ONU, les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables et sont souvent accueillies par les foyers démunis. La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Choléra, paludisme, rouge jaune et fièvre hémorragique font des ravages, a écrit l'organisation internationale. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires prévoit 690 millions de dollars pour assister 6 millions de personnes cette année sur 7,5 millions de personnes dans le besoin, soit près de 9% de la population du pays. L'Est de la RDC demeure la partie la plus frappée avec plus de 1,6 million de déplacés internes l'an passé. Mais la situation de conflit en Centrafrique, au Soudan du Sud et au Burundi risque d'engendrer de nouveaux besoins humanitaires avec l'afflux de nouveaux réfugiés vers le Congo, a déploré l'ONU.
Le prix de la presse diplomatique 2015 a été attribué au journaliste burundais Esdras Ndikumana, correspondant de l'agence France Presse et de Radio France Internationale au Burundi. Le journaliste a reçu son prix des mains du ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius. Vivant aujourd'hui en exil au Kenya, Esdras Ndikumana est particulièrement touché de recevoir ce prix qu'il dit dédié à tous ses frères burundais.
Je disais donc, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de voir le travail accompli au cours de ces dernières années reconnu, une telle reconnaissance par les confrères journalistes français qui ont reconnu le travail que j'ai fait sur le terrain pendant cette dizaine d'années. Donc je suis vraiment ému, satisfait, mais aussi c'est un sentiment de partage avec mes confrères burundais qui sont sur le terrain, qui ont travaillé dans les mêmes conditions et qui pour la plupart ont été obligés de fuir le pays. Je parle des journalistes des médias indépendants. 90% ont fui le pays, il en reste 10% qui travaillent dans des conditions épouvantables parfois, et donc je leur dédie ce prix.
Revenons un petit peu à vous, après avoir été tabassé par les services de renseignement. Vous vivez maintenant en exil au Kenya. Peut-on aujourd'hui faire son métier de journaliste au Burundi?
Ça dépend de ce qu'on attend par son métier de journaliste. On veut vraiment travailler librement, faire son travail comme on l'attend, c'est-à-dire professionnellement, dans toute conscience, déontologie. C'est plutôt difficile. Bon, il y a des journalistes de la radio nationale qui travaillent, il y a des journalistes de certaines radios sont plutôt proches du pouvoir qui travaillent, mais ce n'est pas vraiment du travail, c'est un autre genre de journalisme. Si on veut faire son travail correctement, honnêtement, c'est très difficile aujourd'hui au Burundi parce que les conditions ne le permettent pas.
Quelle est pour vous la situation des libertés individuelles au Burundi et une sortie de crise est-elle encore possible?
Sur les libertés, c'est vraiment, je suis Abasourdi, je suis totalement anéanti en voyant comment le pays a reculé. Ce qui s'est passé depuis que le président Nkurunziza a décidé d'obliger le troisième mandat, il y a eu des manifestations qui se sont transformées en insurrection armée, suite notamment à la répression très très forte qui avait frappé les manifestants. Et puis aujourd'hui, donc, on assiste un peu à la naissance de nouvelles rébellions au Burundi. On a déjà basculé dans la guerre civile, je ne peux pas le dire tout à fait, mais si on n'a pas encore basculé, on en est proche. Alors, la situation des droits de l'homme et des libertés civiques a totalement régressé. Le Burundi, sur le plan, par exemple, de la liberté de presse, la liberté d'expression était arrivée à un point très satisfaisant, un peu en avance de tous les autres pays de la région. Les organisations de la société civile étaient très actives. Aujourd'hui, tout ça est parti en lambeaux, tout ça a été cassé. C'est grave ce qui se passe dans le pays sur ce plan-là, à cause justement de toutes ces violences. Alors, la sortie de crise au Burundi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'une seule voie possible dans ce pays aujourd'hui, c'est la voie des discussions, la voie de la négociation, ou comme on dit au Burundi, la voie du dialogue inter-burundais. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut que les parties en conflit arrivent à s'entendre pour qu'on sorte de ce conflit avant que la crise ne s'aggrave.
Le journaliste burundais Esdras Ndikumana, joint à Paris par Claire Morin-Gibou. L'Italie a évacué 15 policiers libyens blessés dans l'attentat du 7 janvier dernier, revendiqué par l'organisation État islamique Azliten. L'évacuation a fait suite à une demande du premier ministre désigné Fayez El-Sarraj. L'attentat au camion piégé contre un centre de formation de la police avait fait plus de 50 morts et une centaine de blessés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le processus d'extradition vers les États-Unis du baron mexicain de la drogue, Joaquin El Chapo Guzman, prendra au moins un an, voire beaucoup plus, si ses avocats utilisent tous les recours légaux, ont averti les autorités mexicaines, cher Rubin Dorcel.
Des représentants d'Interpol se sont rendus dimanche à la prison d'Altiplano où le baron de la drogue est de nouveau incarcéré pour délivrer deux mandats d'arrêt aux fins d'extradition. Le gouvernement mexicain a précisé avoir reçu une demande formelle des États-Unis le 25 juin, deux semaines avant l'évasion. Ce processus pourrait durer au moins un an, voire beaucoup plus, a averti hier José Manuel Merino Madrid du bureau du procureur du Mexique. L'avocat d'El Chapo ne se laissera pas faire car il a assuré qu'il mènera une bataille juridique sans fin pouvant aller jusqu'à la Cour suprême au motif que son client risque la peine de mort aux États-Unis. Le chef du cartel de Sinaloa fait l'objet de poursuites dans plusieurs États américains. Joaquin El Chapo Guzman a été arrêté vendredi, 6 mois après son évasion rocambolesque de la prison de haute sécurité d'Altiplano le 11 juillet dernier. C'était la deuxième fois que le narcotrafiquant s'échappait d'une prison mexicaine après une première évasion en 2001 dans un panier de linge sale.
En Turquie, au moins 10 personnes ont été tuées, 15 blessées dans une forte explosion. Aujourd'hui, les causes de l'explosion demeurent inconnues pour le moment. L'incident est survenu sur le site historique de Sultanahmet, le cœur touristique d'Istanbul. Les médias évoquent la thèse d'un attentat suicide dans ce quartier situé près de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. Barack Obama prononce ce soir son ultime discours sur l'état de l'Union face au Congrès réuni au complet. Le président américain est déterminé à mettre en valeur son bilan, mais aussi à livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016. Anne Alberson.
Pour le 44e président des États-Unis, ce rendez-vous traditionnel est la dernière occasion de s'adresser aux Américains en prime time, avant que Washington et le reste du pays ne basculent complètement en mode électoral. Candidat démocrate et républicain à la présidentielle s'apprête en effet à entrer dans le vif du sujet, avec le début des primaires le 1er février dans l'Iowa. Axe attendu du discours présidentiel, le rebond de l'économie et le chemin parcouru depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2009, pendant la plus grave crise depuis les années 1930. Le tableau est loin d'avoir impressionné Donald Trump, en tête dans les sondages du côté républicain. Le milliardaire a dressé un bilan autrement plus sombre des années Obama. « Le pays ne va pas bien », a-t-il lâché. « Nous sommes assis sur une énorme bulle prête à exploser ». À 12 mois de son départ et face à un Congrès dominé par les Républicains, le président Obama veut assurer qu'il a toujours le pied au plancher. La Maison-Blanche en donne pour preuve une série de succès sur des dossiers emblématiques, nucléaire iranien, libre-échange en Asie-Pacifique ou encore changement climatique, avec l'accord de Paris en décembre.
Michel Platini, le patron de l'UEFA, le président de l'UEFA, L'UEFA, suspendu 8 ans par la FIFA de toute activité dans le football, a officiellement fait appel auprès de la Chambre de recours de l'instance mondiale du football lundi. Ce journal est terminé. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous laisse en compagnie de Henri Francis dans 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.